Ami Akapi, bonjour.
Bonjour.
Très heureux de vous recevoir à France Culture, dans l'émission du Grand Orient de France. Alors, je vous présente pas pour nos auditeurs, mais quand même, vous êtes le président du Printemps Républicain. Vous êtes par ailleurs conseiller municipal à Avignon et vous êtes l'auteur d'un livre dont on va parler au cours de cette conversation, Combat pour la France, qui a été publié récemment aux éditions Fayard. Alors, justement, commençons in medias res, au cœur du sujet. Combat pour la France, c'est pas un titre anodin. Est-ce que vous vouliez enlever à l'extrême droite le monopole d'un certain discours sur la France, sur le signifiant France?
Oui, moi je m'insurge depuis de nombreuses années, moi qui viens de la gauche, du Parti Socialiste notamment pendant de nombreuses années, de voir que nous avons abandonné la défense des symboles de la République, la défense de la nation, la défense de la patrie, finalement à l'extrême droite ou à la droite extrême, au prétexte que cela ferait le jeu du Front National. Ce qui fait le jeu du Front National, c'est précisément de ne pas parler de ces sujets de manière apaisée, de manière républicaine, et de laisser l'extrême droite le faire avec son lot d'outrances, de caricatures, d'excès, d'amalgames et tout ce que l'on sait à son propos. Oui, parler de patrie, parler d'ordre, parler de sécurité, parler de république, c'est être fidèle à l'histoire de la gauche, à ses combats de toujours, et c'est surtout être en résonance, en adéquation avec ce qu'attendent, ce que disent les classes populaires, ce que disent notamment les habitants des zones périurbaines. Ils demandent de la sécurité, ils demandent de l'ordre et ils attendent que la gauche leur réponde.
Alors je vais vous lire un petit texte qui date de 1889, Amin El Khatmi. Nous n'avons pas voulu mettre la guerre dans les villages, mais au contraire la paix. Et le vrai moyen d'avoir la paix, c'est de mettre chacun à sa place, quelque chose à sa place, le maire dans la mairie avec pouvoir administratif, le curé dans l'église avec la religion, l'instituteur dans l'école avec les éléments de la science et de la morale. Ça, c'est un texte de Jaurès.
Jaurès.
Il s'intitule Laïcité. Il est paru dans la Dépêche de Toulouse, enfin, future Dépêche du Midi, donc en juin 1889. Vous reconnaissez dans la pensée jaurésienne?
Oui, et d'ailleurs, ceux qui nous font reproche à gauche de vouloir parler de République, d'aimer notre pays, d'être des patriotes, sont souvent les mêmes qui ignorent les écrits extraordinaires de Jaurès sur la République, sur son attachement à la patrie, sur le fait qu'il fallait être patriote et ne pas être nationaliste, parce que, disait-il, le nationalisme, c'est la guerre. Et donc, être fidèle à Jaurès, avec le contexte d'aujourd'hui, les éléments de compréhension d'aujourd'hui qui ont changé par rapport à l'époque que vous citiez, c'est être de gauche, j'en suis fondamentalement et foncièrement convaincu.
Alors, pour vous qui avez signé, je le rappelle, donc les combats pour la France aux éditions Fayard, quels sont les principaux combats républicains d'aujourd'hui?
C'est le combat pour défendre la laïcité et la défendre contre toutes les formes d'atteintes qu'elle peut connaître, que ce soit des atteintes de l'islam politique ou, à contrario, des atteintes de ceux qui passent leur journée à vouloir défendre une vision pseudo-ouverte ou pseudo-apaisée de la laïcité, sous-entendant par là qu'elle pourrait être source d'exclusion, qu'elle pourrait être agressive. Nous défendons la laïcité sans adjectif, nous défendons la liberté d'expression. Il y a eu l'affaire qu'on a appelée l'affaire Mila, de cette jeune femme qui a vu l'apocalypse lui tomber sur la tête parce qu'elle s'est moquée d'une religion, et ce que l'on pensait relever de l'indiscutable, des éléments à savoir, on a le droit de se moquer d'une religion, ça fait partie de la liberté d'expression. Des gens ont été tués le 7 janvier 2015 dans une rédaction parce qu'on leur a reproché d'avoir représenté le prophète de l'islam et de s'être moqué de lui. Nous défendons le droit des juifs, des français de confession juive à vivre dignement et en paix et en sécurité dans notre territoire. 12 Français de confession juive ont été assassinés depuis 2012 parce qu'ils étaient juifs par des islamistes. Je ne supporte pas l'idée de savoir que des enfants sont déscolarisés, des enfants de confession juive sont déscolarisés des écoles publiques de notre pays parce que leur sécurité n'y est plus assurée. C'est un de nos échecs collectifs les plus insupportables et nous sommes très mobilisés. Et puis, défendre les fonctionnaires, les premières lignes de la République, ces policiers, ces pompiers, ces personnels soignants qui sont en première ligne, qui incarnent l'État au plus près du terrain et qui souffrent de la violence de la société qu'ils reçoivent en pleine figure.
Alors on va revenir à ces sentinelles ou à ces premières lignes de la République que sont les fonctionnaires dans les territoires, en but souvent à des violences croissantes, comme d'ailleurs certains élus, beaucoup d'élus de la République. Mais un mot quand même sur l'antisémitisme. Vous l'écrivez dans votre livre, l'antisémitisme devrait être le combat de tous les Français, des Républicains, mais même de tous les Français. Pourquoi ça n'est pas le cas d'après vous aujourd'hui, Amine El-Khatmi ?
Ça n'est pas le cas parce que, d'abord parce qu'il y a une partie de l'extrême droite qui
refuse
foncièrement antisémite.
Et qui refuse donc de lutter contre l'antisémitisme.
Oui, bien sûr, c'est un antisémitisme qui remonte du fond des siècles, que l'on connaît, que l'on a bien étudié. Puis vous avez ce qu'on appelle un nouvel antisémitisme, un antisémitisme qui vient de banlieue, qui vient des quartiers populaires d'Avignon, qui a été encouragé, posons des mots clairs sur les problèmes, qui a été encouragé par des élus de gauche qui se sont vautrés dans le clientélisme et qui, pour plaire à un électorat arabo-musulman, ont organisé l'importation du conflit israélo-palestinien en France. Et lorsque vous faites cela, eh bien, vous posez des cibles sur le dos des juifs, qui du coup sont visés parce que juifs, alors que parfois ils n'ont même pas de lien avec Israël, ou que parfois ils sont en désaccord avec la politique du gouvernement israélien. Ceux qui ont fait cela pour acheter quelques voix, pour grappiller quelques sièges de conseillers municipaux, portent une responsabilité historique dans la gravité de la situation. Il y a eu un dossier dans un grand hebdomadaire, Le Point, pour ne pas le citer, il y a quelques jours, sur la situation dans la circonscription de Jean-Christophe Lagarde à Bobigny. La situation est gravissime. Il y a eu là aussi des agressions antisémites. Tout cela est parfaitement insupportable.
Un des combats très importants de cette famille républicaine que vous représentez aujourd'hui avec cette formation, qui est une formation associative et politique, qui s'appelle le Printemps républicain, c'est le combat pour la laïcité. Ça rejoint d'ailleurs les engagements historiques des loges maçonniques françaises, le Grand Orient, mais pas seulement, en faveur de la laïcité. Avez-vous le sentiment, vous qui êtes matricé par les combats de la gauche, que la gauche, progressivement en France, s'est détournée de ce souci nécessaire de la laïcité ?
On défend la République, sinon on aurait appelé l'association le Printemps laïque, et la laïcité fait partie de la République. Est-ce qu'une partie de la gauche est à la hauteur ? Non. Lorsqu'une partie de la gauche, je ne citerai pas de nom ici, mais lorsqu'une partie de la gauche va défiler derrière des islamistes le 10 novembre dernier, à l'appel de la lutte contre l'islamophobie qui est le rejet, le refus de la critique d'une religion, la haine contre les musulmans est insupportable et doit être condamnée. Le rejet, le fait de ne pas pouvoir critiquer une religion, ce n'est pas normal. Et donc lorsque des gens de gauche sont allés défiler à cet appel-là, derrière des islamistes, des imams qui expliquent qu'une femme non voilée est une femme impudique qui peut être violée, des imams qui expliquent que des enfants qui écoutent de la musique vont être transformés en porcs ou en singes, aller scander Allahu Akbar à quelques dizaines de mètres du Bataclan ou de la rue Nicolas Appert où se trouvaient les locaux de la rédaction de Charlie Hebdo, lorsqu'on est de gauche, lorsqu'on est attaché à l'universalisme, à la liberté d'expression, à la liberté de conscience, lorsqu'on a une certaine conception de l'égalité entre les femmes et les hommes et de ce que doit être la place des femmes dans la société, il y a des choses qui ne se font pas, des propos qui ne se tiennent pas et des actes qui ne se posent pas. Et lorsque ceux-là sont allés poser ces actes, manifester derrière des islamistes, je considère qu'ils ont quitté la gauche, qu'ils n'en font plus partie.
Qu'ils ont quitté cet espace idéologique, doctrinal, philosophique de la gauche.
Et évidemment, nous avons une tradition féministe, universaliste, une grande tradition de bouffeurs de curés au sein de la gauche, Harakiri, Charlie Hebdo. Et donc, lorsque vous passez de bouffeurs de curés à manifestants avec des bigots, vous trahissez ce qu'ont été les combats de la gauche.
Alors, les combats pour la France que vous avez signés récemment chez Fayard, c'est un manifeste universaliste et républicain, en tout cas pour le retour à une certaine conception universaliste de la République, mais vous n'êtes pas manichéen. C'est-à-dire que vous accommodez pas de la relégation de certaines populations dans des quartiers périphériques des centres-villes. Vous êtes vous-même d'ailleurs issu d'une cité, comme on dit aujourd'hui, sensible d'Avignon. Mmh. Vous êtes d'ailleurs toujours élu local à Avignon. Mmh. Et vous manifestez de la compréhension pour les revendications républicaines des personnes qui sont issues de ces milieux, qui sont des milieux authentiquement défavorisés. Là, le mot n'est pas péjoratif. Pourquoi c'est si difficile aujourd'hui en France, dans le climat actuel, de faire entendre deux exigences? La lutte contre le séparatisme communautaire, identitaire, islamiste, d'un côté, mais la lutte aussi contre la relégation territoriale qui devrait être en quelque sorte un ABC de la pensée républicaine.
Ce serait un contresens d'ignorer la responsabilité des pouvoirs publics dans la situation. On peut faire tous les discours que l'on voudra.
Carrément, responsabilité des pouvoirs publics.
Mais attendez, Alexis Lacroix, les gens qui sont arrivés en France, que l'on a mis dans des quartiers, que l'on a mis dans des barres d'immeubles en fonction de leur pays d'origine, de leur culture, de leur langue maternelle, de leur religion, comment voulez-vous après que l'on s'étonne que s'y développe du communautarisme, du repli sur soi, le sentiment de ne pas appartenir à la communauté nationale. Moi, je ne vais pas passer mes journées à pourfendre les discours victimaires et à expliquer à ces jeunes qu'ils doivent s'intégrer et prendre toute leur place dans la République et en même temps fermer les yeux sur la responsabilité des pouvoirs publics. Moi, quand mes parents sont arrivés en France, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont été logés dans des HLM parce qu'ils n'avaient pas les moyens.
Vos parents venaient du Maroc ?
Du Maroc, de Casablanca. Ils sont arrivés à Avignon. Mon père était ouvrier, ma mère femme de ménage. Ils n'avaient donc guère le choix d'habiter dans le parc privé, et lorsqu'ils se sont retournés vers l'office public de logements sociaux de la ville d'Avignon, leur a dit vous allez à la Reine Jeanne. Ils sont arrivés à la Reine Jeanne, qu'est-ce qu'ils y ont trouvé? Eh bien des Marocains, des Algériens, des Tunisiens comme eux, qui arrivaient du Maghreb. Et donc comment voulez-vous après que des élèves, les enfants, les adolescents qui grandissent dans ces quartiers puissent appartenir à la nation, avoir le sentiment d'avoir un lien avec vous ou avec vous en face ou avec...
Il faut quoi alors? Il faut de la fermeté républicaine sur le respect des principes régaliens, mais il faut aussi de la générosité dans la pratique des choses.
Oui.
Et un certain nombre de responsables politiques sont plus capables de cette générosité?
Non, parce que certains responsables politiques sont tentés par les discours victimaires, c'est-à-dire qu'on va expliquer aux jeunes des quartiers que ce sont de pauvres victimes de la France structurellement raciste et islamophobe, et quelle que soit l'ampleur de leurs efforts, de leur travail et de leur abnégation, ils sont condamnés à l'échec car ils vivent dans un pays qu'ils ne veulent pas d'eux. Et donc moi, je refuse ce discours. Moi, je dis aux jeunes des quartiers populaires, d'abord qu'ils sont français à part entière, qu'ils ont toute leur place dans la République et qu'en même temps, je suis conscient que parce qu'ils viennent de ces quartiers, ils vont devoir sans doute développer plus d'efforts, plus contourner plus d'obstacles, contourner plus d'embûches. Et donc, il faut qu'ils fassent ce travail et en même temps, parce qu'ils sont en France, la République les aide, les accompagne et les soutient.
Alors, Amine El-Khatmi, c'est passionnant. Malheureusement, les émissions de France Culture sont très minutées. En 30 secondes ou 40 secondes, qu'est-ce que représente aujourd'hui pour vous, dans une France menacée en tout cas par le morcellement symbolique, le morcellement mental, la franc-maçonnerie?
Je dirais deux choses. D'abord, c'est un phare en termes de valeurs. La franc-maçonnerie, c'est la défense de valeurs, la défense de principes. Et puis, c'est, je dirais, une certaine idée du débat public et de la qualité du débat public. C'est la franc-maçonnerie, c'est le débat que l'on extrait du vacarme, que l'on extrait de la petite phrase, que l'on extrait du 280 caractères d'un tweet. C'est l'exigence d'une certaine profondeur, aller au fond des débats, ne pas être dans la surface, ne pas être dans le superflu. Et en ces temps un peu troubles, cette exigence-là est nécessaire.
Échappons au buzz. Oui, vous avez raison, Amine El-Khatmi. Merci beaucoup. Combat pour la France, c'est aux éditions Fayard. Et on vous retrouve bien sûr sur le site du Printemps Républicain. Bon courage à vous.
Merci.
Alors, je me tourne vers Louise, qui nous écoute depuis tout à l'heure. Chère Louise, vous aviez plusieurs annonces à nous faire, et notamment une lettre à nous lire, qui est la lettre du grand maître du Grand Orient de France.
Oui, tout à fait, mon cher Alexis. Chers auditeurs, notre focus met en avant l'un des deux dossiers de février de Humanisme, la revue du Grand Orient de France. Ce dossier se consacre au travail de mémoire. En prélude au voyage à Auschwitz qu'il conduira pour commémorer le 75e anniversaire de la libération du camp d'extermination, Jean-Philippe Hübsch, grand maître du Grand Orient de France, introduit le dossier, donc par cette lettre. Commémorer Auschwitz. La franc-maçonnerie est une des réalités historiques qui ont forgé l'identité de l'Europe. Elle a, pendant plus de trois siècles, constamment accompagné, éclairé, questionné toutes les vicissitudes de son histoire, ses épreuves, transformations, révolutions, crises, guerres. Elle est sans doute aujourd'hui la seule institution qui privilégie la voie initiatique pour transmettre le sens profond de ses symboles et de sa tradition. Se considérant dépositaire d'un héritage, elle s'engage dans une chaîne qui lui vient du passé, de ses maîtres vénérés, et qu'elle s'efforce de perpétuer, toujours à la recherche de nouveaux maillons, dans le but de participer à cette humanité infinie, faite de la longue suite spirituelle de tous les hommes inventant leur avenir. Le lieu de cette transmission, c'est la loge, avec ses rituels, ses outils, ses symboles et ses valeurs, où chacun peut tracer son chemin avec les autres et grâce à eux. C'est un lieu de participation symbolique à l'universel dans lequel, à l'abri des tumultes du monde, l'engagement personnel du maçon peut accéder à une dimension qui le transcende. Les francs-maçons sont ainsi, depuis le XVIIIe siècle, les passeurs infatigables de la pensée des Lumières. Acteur direct en France, de l'avènement de la République, de ses progrès et de ses plus brillantes réalisations, ils sont aujourd'hui la vigie qui en défend les idéaux. Ce rapport à l'histoire est tellement consubstantiel à la démarche maçonnique que j'ai voulu, à la faveur du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, organiser un voyage des francs-maçons dans ce qui est aujourd'hui le lieu le plus emblématique de toute la folie dont les hommes sont capables. Auschwitz est le plus grand complexe concentrationnaire du Troisième Reich. À la fois camp de concentration, camp de travail forcé et camp d'extermination, il a accueilli des opposants politiques, des résistants et ceux que les nazis appelaient des asociaux, tziganes, prostituées, homosexuels, handicapés, juifs. Camp d'extermination des plus faibles, d'exploitation des plus forts, d'expérimentation médicale diabolique où l'humain est moins considéré que l'animal, Auschwitz a surtout été le lieu tragique où la réalisation de la solution finale de la question juive a atteint son niveau de rationalité le plus élaboré, le plus abouti, le plus délirant, pour devenir le centre de la mise à mort industrielle de plus d'un million de juifs. Notre pays, la France, connaît en ce début de XXIe siècle la troisième génération consécutive de ses enfants qui n'auront eu à s'impliquer directement dans aucun conflit ouvert. Si nous étions nés à une autre époque, nul n'aurait pu oublier que l'histoire est tragique. Parce que nous sommes tous porteurs en nous d'un passé que nous subissons, j'ai voulu que les francs-maçons aillent puiser ensemble à cette terrifiante mémoire pour accéder à la dimension propre de l'histoire. Ce voyage à Auschwitz, ce lieu qui est le symbole même du meurtre de masse, doit nous permettre d'accéder à une conscience historique, à une connaissance critique de notre passé, propre à façonner une mémoire collective lucide et apaisée, capable de s'investir à nouveau dans un projet d'avenir commun, autour de nos idéaux humanistes et universalistes de liberté, d'égalité et de fraternité. Jean-Philippe Hübsch, grand maître, président du Conseil de l'Ordre et du Grand Orient de France.